Au quotidien, avec Clotilde Seille.
Et nous voilà de nouveau ensemble. Je vous rappelle que c'est Clotilde Seille sur les ondes de Canal M à la une du journal de Montréal. Ce matin, ce qui retient vraiment l'attention, c'est le choc en banlieue au sujet du péage sur le pont Champlain. Et tout le monde s'exprime et tout le monde est contre. Par exemple, Thomas Mulcair qui dit « Imaginez les familles qui ont pris la décision de s'établir en Montérégie sur la base du fait qu'il y avait un pont et pas de péage. Et tout d'un coup, on est en train de changer la donne. C'est totalement injuste. Ce sont des spéculations basées sur des perceptions. Moi, je veux travailler sur la réalité. Ma position est claire. Depuis le début, je suis contre le péage et je vais continuer à œuvrer dans ce sens-là », a dit Robert Poëty, ministre des Transports. Denis Lebel, le coût final du projet sera seulement déterminé une fois que le processus d'acquisition sera terminé à la fin d'avril 2015. Et puis, évidemment, il y a le maire de Brossard aussi qui ne veut pas de péage sur le pont, point à la ligne. Il dit que Brossard, du coup, s'il y avait péage, s'en trouverait fortement pénalisé. Alors, il y a sondage dans l'air. On est allé poser quelques questions à des automobilistes et surtout à des gens qui ont à traverser le Saint-Laurent quotidiennement. Êtes-vous favorable ou non à l'instauration d'un péage sur le nouveau pont Champlain? Eh bien, ceux qui sont très favorables, 8%. Mais ceux qui sont très défavorables, 43% des gens se disent non, on n'en veut pas. Ça, c'est pour les gens qui vivent sur la rive sud. Pour les gens qui vivent à Montréal, évidemment, le chiffre descend à 29% parmi ceux qui sont très défavorables et 18% parmi ceux qui sont favorables. Et puis, parmi ceux qui sont de Laval, ben là, évidemment, on tombe encore plus à quoi que non. 30% sont plutôt très défavorables et puis 12% sont favorables. Et puis, on nous dit ici, ça c'est un chiffre intéressant, pour effectuer un aller-retour au cours d'une journée sur le pont Champlain, seriez-vous prêt à payer 10 $? Oui, répondent 11% des répondants et non, répondent 76% des répondants. Alors, seriez-vous prêt à payer 7,50 $? Eh bien, c'est non pour 72% et oui pour 15. Alors, peut-être 5 $. Seriez-vous prêt à payer 5 $ pour traverser le pont Champlain? 49% des personnes ont répondu non. Et puis, si vous changiez vos habitudes, et non pas comme c'est écrit dans le Journal de Montréal, si vous changeriez vos habitudes, qu'est-ce que cela représente pour vous? Et alors, 75% ont répondu, ça représenterait de simplement emprunter un autre pont. 75%. 12% ont dit « je prendrai le transport en commun », 4% ont dit « trouver un emploi différent » et 3% seulement « faire du covoiturage ». Aïe, 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 aïe. Aussi dans le journal de Montréal ce matin, c'est le papier, comme toutes les semaines, le jeudi de Denise Bombardier. Le titre de sa chronique ce matin, « Le PQ incorrigible ». Faut bien qu'il y ait quelques avantages à vieillir, dit Denise Bombardier, entre autres celui qui permet d'établir des comparaisons avec le passé et de mettre ainsi les événements en perspective. Le branle-bas de combat qui est amorcé au sein du Parti québécois en vue d'une élection à la direction est un copier-coller des campagnes du passé. L'âge vénérable du parti ne le met pas du tout à l'abri d'un de ses démons majeurs, celui de vivre dans une lutte permanente de frères ennemis où les candidats s'entre-déchirent avant même de se déclarer officiellement. Le PQ d'aujourd'hui est à court de souffle et d'idées. Il est incapable d'autocritique qu'il confond avec l'autoflagellation, dit encore Mme Bombardier. Il semble incapable de comprendre les raisons multiples de sa déconfiture électorale. La présence d'une nouvelle génération en son sein, les 45 ans, ne réussit pas à alléger sa fatigue intellectuelle, laquelle se révèle par son incapacité à réinventer le nationalisme passé qui s'est avéré inadéquat pour faire accéder le Québec à l'indépendance. C'est pourquoi, dit-elle, Madame Bombardier, il est presque pénible d'assister à ce feu de paille péquiste devant le référendum écossais. Il est fort à parier que si le non l'emporte aujourd'hui en Écosse, les péquistes plaqueront la lecture qu'ils ont faite lors du référendum de 95, à savoir que les Écossais se sont fait voler le référendum par la campagne de peur de leurs adversaires. Si l'Écosse vote oui, les péquistes seront requinqués, oubliant que les Québécois, avec leurs deux fois non merci, n'ont pas écouté des chefs autrement charismatiques, inspirés et intellectuellement équipés que la majorité des candidats potentiels, à l'exception sans doute de PKP, qui, lui, possède la tare la plus haïssable aux yeux de nombre de militants, à savoir sa richesse. Je vous rappelle que c'était signé Denise Bombardier dans le Journal de Montréal de ce matin. Oui, c'est un son différent sur nos instrus de respiration, comme on les appelle, entre deux articles, lorsqu'on change de sujet ou autre. Son différent ce matin, parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, mais peut-être venez-vous juste de vous joindre à nous, bien à l'initiative de Martin Dupuis, qui signe l'habillage sonore musical de cette émission-là. Eh bien, il a décidé, Martin, de ne diffuser que de la musique interprétée par des élèves du Conservatoire de musique de Québec, suite à l'annonce qui a été faite que peut-être on penserait très sérieusement à couper les conservatoires de musique et d'art dramatique en région. Ceci explique cela. Maintenant, retour au Journal de Montréal avec Lise Ravary, qui signe ce matin ce papier, l'appel à la nation. Hier matin, en débat avec Gabriel Nadeau-Dubois à l'émission de Marie-France Bazot, mon jeune collègue a défendu l'usage du rapport de force comme moyen de contrer les politiques actuelles du gouvernement Couillard, comme à l'époque du printemps étudiant. Désolé, ce n'est pas dans la confrontation que nous réglerons nos problèmes, mais dans un appel au sacrifice et au compromis pour le bien de la nation. On ne pourra y échapper. Le Québec doit s'extirper d'une situation budgétaire qui mine son présent et son avenir. 20 ans de déficit au cours des 30 dernières années. Une dette brute qui se chiffre à 269,5 milliards de dollars. À lui seul, le paiement des intérêts représente la troisième dépense de l'État, après la santé et l'éducation. Les États ne peuvent plus compter sur des poussées de croissance économique pour équilibrer leurs finances. Le miracle économique de l'après-guerre est terminé. En vérité, le lascan l'a sonné, et il y a longtemps. Mais le Québec, dopé au crédit pas cher, a continué le parti. Les politiciens, tous partis confondus, toujours prêts à tirer parti de notre fin d'ogre pour de nouveaux services gouvernementaux pour se faire élire. Les Québécois aiment un État bien rembourré. Pour ma part, je préfère le risque au confort anesthésiant. Mais une majorité tient au modèle québécois. Les libéraux le savent, eux qui ont dépensé sans compter pendant les années Charest. Arrêtons de dire qu'ils veulent démanteler l'État-providence. Ils cherchent plutôt un moyen de le financer. Comme nous, les Suédois tiennent à leur filet social. Au cours des années 90, ils ont connu une crise économique sans précédent. La survie du modèle suédois dépendait d'une réforme en profondeur. Ils ont décidé de travailler ensemble et accepter les sacrifices et les compromis nécessaires. Les syndicats de la fonction publique ont renoncé à la sécurité d'emploi. La réforme des régimes de retraite est allée beaucoup plus loin que ce que proposent les libéraux avec la loi 3. On a laissé le privé jouer un rôle en santé, en éducation. On a réduit les impôts des entreprises pour favoriser l'emploi et l'investissement. Le gouvernement a même laissé le fabricant automobile Saab fermer ses portes sans intervenir. Aujourd'hui, la Suède est le troisième pays le plus égalitaire au monde, après le Danemark et le Japon. Fini les déficits et sa croissance économique est deux fois plus élevée que la majorité des pays européens. Rien n'est parfait, mais les Suédois ont réglé dans leur ouverture et la collaboration un problème semblable à celui auquel nous faisons face. Little moonlight.
light can do. Ooh, what little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a fluttering all day long. You won't let stutter, cause your tongue just will not utter the word. I love you. Ooh, ooh, what little moonlight can do. Little moonbeams come peeping through. You get bold, you can't resist him. All you say, once you have kissed him, is ooh, 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 what a little moonlight can do.
Bridgewater sur les ondes de Canal M et toujours Clotilde Seille au micro. Nous sommes à la une du Devoir maintenant, ce jeudi 18 septembre. Les spécialistes sortent l'artillerie lourde pour riposter au ministre Barrette. Les 5 pôles régionaux du Conservatoire de musique menacés de fermeture, là encore et aussi, ça fait la une du journal Le Devoir. Culture, les défis du Québec, selon Monique Simard. Le Devoir a rencontré la présidente de la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles. Elle regarde le chemin parcouru au Québec en mettant le cap sur l'avenir. Et puis cette photo d'un Écossais qui arbore un chapeau sur lequel il est écrit « Yes, les Écossais face à leur destin ». Plusieurs souverainistes québécois sont à Édimbourg en ce jour de référendum. Les yeux du monde entier sont tournés vers l'Écosse. La petite nation de 5,3 millions d'habitants doit décider ce jeudi si elle maintient une union politique vieille de 307 ans avec la Grande-Bretagne ou si elle vole de ses propres ailes. Comme au Québec en 1995, les camps du oui et du non se trouvent dans une quasi-égalité, 51 à 49 en faveur du non selon les sondages, au moment où les électeurs doivent envahir les bureaux de vote. Le sort de la nation repose entre les mains de 600 000 électeurs indécis qui peuvent pencher d'un côté ou de l'autre au moment de remplir leur bulletin de vote, estiment les analystes. Printemps érable, la police de Québec a abusé de son pouvoir, conclut un juge. Un manifestant mis en arrestation en mai 2012 obtient 4 000 $ en réparation. J'en ai déjà parlé puisque ça faisait la une du Soleil, ce qui m'amène à vous dire que l'émission est en reprise, hein, si vous voulez la réentendre, à 18h30 et 23h, me semble-t-il. Sinon, de toute façon, si vous laissez un petit peu le temps à nos techniciens d'agir, eh bien, très rapidement, l'émission est à peu près écoutable n'importe quand. Il suffit d'aller sur canalm.org. Et puis, le chef-d'œuvre de René Lucier, Le Trésor de la langue, célèbre ses 25 ans à Pop Montréal. J'aurai certainement l'occasion de vous en toucher un petit mot dans la deuxième heure de cette émission au quotidien. Qu'est-ce que j'ai choisi pour vous? D'abord, ceci. Eh oui, Jacques Parizeau, qui fouette les troupes souverainistes. Pour l'instant, pas tellement de chroniques et d'éditos, pas du tout en fait sur le sujet, mais j'imagine que demain va y en avoir. L'ex-premier ministre a enregistré un discours pour l'événement Destination. Le Parti québécois est en train de se laisser aller à la dérive aux yeux de Jacques Parizeau. Dans un discours enregistré obtenu par Radio-Canada qui sera présenté en fin de semaine lors du rassemblement souverainiste Destination, l'ancien premier ministre dresse un constat dur sur la situation du PQ. Les souverainistes font face à un champ de ruines. En regardant de loin la course à la chefferie du PQ, M. Parizeau estime que le débat sur la date d'un éventuel référendum n'est rien de moins que ridicule. Sans viser directement les éventuels candidats, il appelle les souverainistes à s'afficher clairement, alors qu'il considère qu'il y a eu un manque de clarté ces derniers mois. « On ne peut pas nager indéfiniment dans l'ambiguïté », mentionne-t-il. Il met donc en garde les souverainistes d'entretenir un flou sur la question référendaire dans l'éventualité d'un autre scrutin. Selon lui, les électeurs sont en droit de savoir quelle est la stratégie du parti. Il soutient qu'il est primordial de signaler clairement que l'élection d'un parti indépendantiste déclencherait un processus référendaire. Dans le cas contraire, les péquistes finiraient par passer pour des hypocrites. Je vous rappelle une des phrases choc de ce discours qu'on entendra en fin de semaine. « On ne peut pas nager indéfiniment dans l'ambiguïté », a dit Jacques Parizeau, ex-premier ministre du Québec. Et puis Michel David, aussi dans Le Devoir, s'exprime ce matin. Son papier porte le titre de « Qui sème le vent ?». Alors cette chronique commence ainsi. Le premier ministre Couillard a suffisamment d'expérience pour savoir que les fuites font partie du quotidien d'un gouvernement et que le phénomène tend généralement à s'amplifier à l'approche d'une nouvelle ronde de négociations avec les employés de l'État. On comprend que M. Couillard soit agacé de devoir commenter quotidiennement une nouvelle rumeur inquiétante, mais il récolte ce qu'il a semé, trouve Michel David. Son gouvernement a convié les Québécois à un dialogue social sur la révision des programmes sans dire ce qu'il avait lui-même en tête, sinon pour répéter ad nauseam que tout est sur la table. Il n'est pas étonnant que certains se chargent d'informer la population de ce qui se trame dans les officines ministérielles. Mercredi, le premier ministre excédé a carrément refusé de répondre aux questions des médias sur la rumeur du jour rapportée par le Journal de Québec selon laquelle les agences de santé pourraient être abolies. Il est plus délicat de refuser de répondre à celle de l'opposition. À l'Assemblée nationale, la ministre de la Culture, Hélène David, a accusé Véronique Yvon d'alarmer inutilement la population en demandant s'il était exact que les conservatoires de musique en région pourraient aussi être fermés. Sauf que Mme David n'a rassuré personne en déclarant que le gouvernement examinait la façon dont l'offre musicale en région pourrait être maintenue. Pour l'heure, la crédibilité de l'exercice d'assainissement en cours repose largement sur l'issue des négociations en cours avec les médecins, en particulier la Fédération des médecins spécialistes FMSQ, sur l'étalement de la hausse de rémunération qui leur a été consentie. Il est particulièrement savoureux, dit Michel David, d'entendre Gaëtan Barrette se répandre en récrimination contre la FMSQ, qui lui administre aujourd'hui la médecine musclée dont il a lui-même démontré l'efficacité, à un point tel que ceux qu'il fustige aujourd'hui avec tant de vigueur lui ont versé une indemnité de départ de 1,2 million. S'il est vrai que les médecins font figure d'enfants gâtés, le ministre de la Santé ne manque pas de culot pour s'offusquer des menaces qu'aurait proférées sa successeur Diane Francoeur en prédisant 4 ans de perturbation si le gouvernement avait recours à une loi spéciale. M. Barrette lui-même n'avait pas hésité à recourir au chantage en brandissant la menace d'un exode des médecins si on ne leur accordait pas la parité avec leurs confrères des autres provinces. Il pourrait également rappeler au premier ministre qu'à l'instar des fonctionnaires, les médecins peuvent parfois ressentir un urgent besoin d'informer la population des insuffisances dans le réseau de la santé qu'on tente de lui cacher. Quand il déplore la personnalisation du débat par la FMSQ, il oublie manifestement que lui-même n'hésitait pas à qualifier son prédécesseur à la santé, Yves Bolduc, de parfait incompétent. Quand le gouvernement marois avait décidé de rouvrir l'entente qu'il avait réussi à arracher, à M. Bolduc, M. Barrette avait fait tout un plat de l'obligation pour l'État de respecter sa signature. Cette semaine, sa pensée sur la question avait sensiblement évolué. Certes, l'État devrait respecter sa signature, sauf dans des circonstances exceptionnelles. À le voir échanger un sourire avec son voisin de banquette après avoir énoncé ce nouveau principe, il avait manifestement du mal à se prendre lui-même au sérieux.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together.
Oui, on va aller en onde. Ah, il y a un petit problème. Ça peut arriver. Je sais pas. Ça peut parfois être l'ordinateur, le virtuel, un orage quelque part. Allez savoir. En plus, c'est Heaven. Ça se passe dans le ciel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel qui a fait que tout d'un coup, tchic à tchic, on a perdu ce monsieur dont je me souviens plus le nom. Qui chantait ça déjà? Carmen Caballero. Ah, ok, d'accord. Bon, eh bien, ça fait rien. On retourne à nos journaux et à nos affaires. On commencera par la Tribune, la une de la Tribune. L'aéroport en 24 minutes. La Chambre de commerce de Sherbrooke mène une opération charme auprès des gens d'affaires. Et dans la Tribune, c'est Luc Larochelle qui y était aussi. Les participants au rallye d'hier ont mesuré la distance les séparant de l'aéroport en temps. Je l'ai calculé en argent, incluant le pourboire. C'est une course de $45 en taxi à partir du centre-ville. Pas plus cher que pour rejoindre le cœur de la métropole après un atterrissage à l'aéroport Montréal-Trudeau, m'ont rapporté des habitués. On part quand même de loin. Avez-vous l'adresse de l'aéroport? Je n'y suis jamais allé, m'a demandé le chauffeur de taxi sans avoir la moindre idée de la direction à prendre. Adrian est un ex-Yougoslave ne comptant que 2 années d'expérience comme chauffeur de taxi à Sherbrooke. Il n'avait jamais remarqué qu'il passait devant l'aéroport en allant déposer des clients à East Angus. Des membres de ma famille et de mes amis ayant toujours vécu ici se rendraient à l'aéroport à tâtons, l'ai-je rassuré. Quand il restera juste à organiser des navettes et à bien orienter les chauffeurs de taxi, nous serons parés pour le décollage, de me répondre Bernard Sévigny. L'enthousiasme qu'affichaient hier 2 délégués de l'aéroport de Burlington a corroboré les propos que le maire Sévigny a tenus en mai lors de son discours annuel devant la communauté d'affaires. Le mariage d'intérêts est ardemment souhaité des 2 côtés de la frontière. Plus je discute avec les gens d'ici, plus il me semble clair qu'il faut que ce partenariat se concrétise, retient de sa visite à Sherbrooke Nicolas Longo, coordonnateur des programmes de financement des installations aéroportuaires de Burlington. Les invités ont notamment fait escale à l'usine TLD, peu connue bien qu'elle rayonne dans 125 pays. La totalité de sa production est vendue hors du Canada. La cour extérieure de TLD serait une vitrine autoroutière au lieu d'être cachée par les hangars défraîchis de la rue Roy, autrefois ceux de Combustion Engineering, que l'on croirait que Sherbrooke possède un aéroport international. L'entreprise fabrique des chargeurs de fret ainsi que des convoyeurs à bagages comme ceux qui s'activent autour des appareils dans tous les aéroports du monde. Certains équipements en attente de livraison portent le logo de UPS et de FedEx. L'un de ceux présentés aux visiteurs partira bientôt par bateau à destination d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. D'autres produits plus spécifiques sont des commandes des armées australiennes et allemandes. That's great, s'est emballé Monsieur Longo. Au cours des 4 dernières années, le personnel de TLD est passé de 71 à 165 travailleurs. Cet exemple s'ajoute à plusieurs autres que nous avons déjà évoquez, additionnez-les et vous verrez que ce que nous échappons comme opportunité déplore une fois de plus le maire Sévigny. L'absence de transport aérien a fait perdre un autre congrès d'envergure à la région. Ce n'est pas que de la redite, c'était spécifié dans une autre réponse négative reçue hier, j'ai vu le courriel. Il n'y a rien comme une année électorale pour réactiver les dossiers qui traînent, conclut Luc La Rochelle. Souhaitons que ce sera le cas à Ottawa. À la une du droit ce matin, Dorval, l'ami de Dolan, avec une photo de la vedette du film Mommy, Anne Dorval. Et puis, le gros titre, c'est « Un an après la tragédie de Fallowfield, pour ne pas oublier ». Et oui, on se souvient, la ville pleure et n'oubliera jamais. Un trémolo dans la voix. La conseillère Diane Deans a livré hier un vibrant hommage aux victimes du tragique accident entre un autobus, Dossi Transpo et un train via rail qui a coûté la vie à 6 personnes. C'était le matin du 18 septembre 2013. Voilà un an que 6 vies précieuses ont été perdues et que bon nombre d'autres furent affectées. Je n'oublierai jamais la vague de tristesse qui a envahi la ville. Mon cœur est toujours brisé, a déclaré la présidente de la commission du transport en commun de la ville d'Ottawa au début de la réunion du comité. La conseillère de Barrhaven, quartier où l'incident dévastateur s'est produit, s'est aussi exprimée hier. Tout le monde dans notre secteur connaissait quelqu'un qui était dans le 76, a raconté Jan Harder, visiblement toujours ébranlé par le drame qui a secoué sa communauté. Il y avait plus de 90 personnes dans cet autobus et tous habitaient à Barrhaven. Ça nous touche énormément. Je ne sais pas si nous serons capables de mettre l'incident derrière nous. Le maire Jim Watson s'est exceptionnellement déplacé à cette même réunion pour honorer les victimes. Afin de souligner le premier anniversaire de la collision tragique, les membres de la commission du transport en commun ont observé une minute de silence hier à la mémoire des défunts. Les chauffeurs d'Aussi Transpo feront de même à 8h47 ce matin, moment précis où l'accident mortel s'est produit. Si les autobus se trouvent dans un lieu sécuritaire, les chauffeurs s'y mobiliseront pour une minute de silence. Cela permettra aussi aux citoyens de se recueillir, a expliqué Greg Watson, président du syndicat des chauffeurs d'Aussi Transpo. Plusieurs d'entre eux porteront aussi un chandail vert, la couleur préférée de leurs collègues décédés pendant leur quart de travail. Par ailleurs, les drapeaux de toutes les installations de la ville d'Ottawa seront mis en berne, du lever au coucher du soleil aujourd'hui. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour compenser le vide laissé dans ces familles, a affirmé le maire, M. Watson. Mais nous espérons que ces gestes leur démontrent que la ville pleure avec eux et qu'elle n'oubliera jamais.